Philippe, sitôt qu'il se fut assuré des bonnes dispositions de l'ensemble des Grecs, trouva un prétexte, sous couleur de châtier les agressions dont les Perses s'étaient rendus coupables envers la Grèce. Polybe, livre 3, paragraphe 6.
Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Faureau.
Alexandre le Grand est indéniablement un des personnages de l'Antiquité les plus connus, les plus fascinants, sans doute aussi un des plus énigmatiques. Il a été réputé pour être un formidable militaire et le constructeur d'un empire hors norme. Mais pour comprendre Alexandre le Grand, il faut bien voir qu'il bénéficie d'un héritage politique lié à son père, Philippe II de Macédoine. Celui-ci avait renforcé la monarchie macédonienne et avait l'ambition de dominer le monde des cités grecques. Celle-ci d'ailleurs, et Athènes la première, avait été écrasée à la bataille de Chéronée en 338. Par la Ligue de Corinthe, la Grèce s'était finalement livrée à la domination du roi Philippe. Celui-ci avait un projet, plus ou moins bien connu d'ailleurs, d'une guerre contre la Perse, sous prétexte de venger l'invasion des guerres médiques au début du 5e siècle. Ceci est d'autant plus intéressant que l'Empire perse, à ce moment-là, traversait une crise interne avec des successions de satrapes qui contestaient, en tant que gouverneur de province, l'autorité du roi des rois. Le roi Artaxerxès III, empereur de l'Empire perse, avait mené une rude répression et avait été lui-même assassiné en 337. Mais le problème, c'est qu'un assassinat en cache un autre. Philippe II lui-même fut tué au début de l'été 336. Lui succède donc son fils Alexandre. Officiellement, c'est le roi Alexandre III, mais sa réputation, ses conquêtes, sa grandeur, va justement lui valoir l'épithète de le Grand. Il reprend le projet de son père. Il veut effectivement conquérir l'Empire perse. Il dispose, au début de 333, d'environ 32 000 fantassins et de 7 000 cavaliers. Il traverse le bras de mer qui sépare la Grèce de la Turquie actuelle et va remporter en novembre 333 la victoire d'Issos contre les troupes de Darius III. Ceci lui permet justement de contrôler l'Asie mineure. Mais au lieu de s'enfoncer à l'intérieur véritablement de l'Empire perse, il préfère garantir ses arrières. Il va descendre le long des côtes méditerranéennes, seulement arrêté par le siège de Tyr, dans l'actuel Liban, entre janvier et août 332. Puis il marche sur l'Égypte et fonde la cité d'Alexandrie, qui va bien sûr lui survivre. Remontant ensuite vers le nord, au printemps 331, il écrase à nouveau, à Gaugamel, les troupes de Darius. Puis, il va prendre les capitales impériales, Babylone, Suse, Persépolis, qui est saccagée, dit-on, en souvenir de l'incendie d'Athènes au moment des guerres médiques par les troupes perses. Quant à Darius III, il ne lui reste plus grand-chose que la vie. Et encore, celle-ci tient à un fil. Il est assassiné. À partir de ce moment-là, Alexandre se déclare l'héritier du roi des rois et lance ses troupes vers les satrapies orientales de l'Empire. La Drangine, la Sogdiane, la Bactriane. Ainsi, des troupes grecques sont au cœur de ce que fut l'Empire perse. La conquête de l'Empire perse a été effectivement extrêmement rapide. Mais la question qu'il faut désormais poser, c'est de savoir comment Alexandre a envisagé la suite, c'est-à-dire comment maîtriser et consolider sa présence au sein de l'Empire perse. D'abord, il a favorisé la fondation de colonies grecques, en particulier de colonies militaires, implantant ainsi au cœur de l'Asie mineure des endroits où les Grecs pouvaient s'installer. Ensuite, il comprit également qu'il avait besoin de se rallier la noblesse perse. C'est d'ailleurs dans cet objectif qu'il organise le mariage à grands frais avec la princesse Roxane. Sa politique pose aussi des problèmes au regard des Grecs, car tous ses collaborateurs, tous ses généraux, n'approuvent pas forcément cette volonté d'entente avec les élites perses. D'autre part, prenant l'habitude d'être roi des rois, il impose la proxénèse. Qu'est-ce que la proxénèse ? C'est l'habitude qu'avaient les notables perses de se prosterner aux pieds du roi des rois, qui ensuite, en signe d'amitié, les relevait. Mais cet abaissement physique envers un souverain n'est pas du tout dans les mœurs grecques. Aussi, il y a des résistances, des critiques, des complots. Ceux-ci sont punis et plusieurs collaborateurs d'Alexandre le Grand seront exécutés, ainsi Parménion, Cleitos, Callisthène. Mais Alexandre voit plus grand encore. Il se propose d'arriver jusqu'à l'Inde. Il atteint l'Indus au printemps 326. Il parvient à vaincre difficilement les princes indiens, en particulier Poros, mais ses soldats doivent affronter un animal qu'ils ne connaissaient pas, à savoir l'éléphant. Ses troupes ne veulent pas aller plus loin, et Alexandre est obligé finalement de céder. Il ordonne la retraite, qui fut souvent difficile. Ainsi, la traversée du désert de Géranie, que nous raconte Arien dans l'Anabase. La chaleur accablante du soleil et le manque d'eau détruisirent une bonne partie de l'armée, principalement les animaux de bas qui s'enfoncent dans le sable brûlant. Des hommes étaient laissés en arrière pour maladie, d'autres pour épuisement ou insolation, ou incapacité à supporter la soif plus longtemps. La majorité périt dans le sable comme des gens qui tombent à la mer. Oui, la retraite a été effectivement difficile. Mais Alexandre le Grand ne renonce pas à son projet de constituer un empire qui reposerait à la fois sur les Grecs et les Perses. À Suse, il organise le mariage de 90 chefs macédoniens avec des princesses perses. Lui-même épouse une nouvelle princesse perse, la fille aînée du défunt Darius. Brutalement, il meurt le 10 juin 323. Mort naturelle, empoisonné, sans doute qu'Alexandre le Grand a brûlé sa vie. Et en l'espace d'un peu plus de 10 ans, il a passé sa santé à chevaucher, à combattre, à parcourir des milliers de kilomètres. Ce fut ainsi une véritable météore politique et militaire. Mais posons-nous quelques questions sur le projet d'Alexandre. Est-ce que les conquêtes dont nous venons de décrire un peu les étapes principales ont-elles été planifiées ou sont-elles liées aux circonstances qui, finalement, favorisaient une espèce de fuite en avant jusqu'au bord de l'Indus ? Est-ce qu'Alexandre a rêvé d'un empire universel, d'une humanité réconciliée, qui serait finalement symbolisée par l'organisation de ses mariages ? Outre le fait, au demeurant, qu'Alexandre avait compris que la grandeur de l'empire ne pouvait pas continuer sans la participation des élites perses. Mais peut-être qu'Alexandre a fait quelque chose finalement auquel il ne songeait pas spontanément tout de suite. C'est la diffusion de la culture grecque. Il a diffusé la culture grecque au-delà de la seule Grèce traditionnelle. Et finalement, Il a ainsi favorisé ce que l'historien allemand Gustav Droysen a appelé au XIXe siècle l'hellénisme, c'est-à-dire une culture qui, par la langue, par les habitudes de vie, par le théâtre, par l'urbanisme, a pu ainsi se diffuser non seulement en Grèce ou dans le monde grec tel qu'il existait en Sicile ou en Italie du Sud, par exemple, mais dans tout le Moyen-Orient. Et ainsi, la ville d'Alexandrie, qu'il a lui-même fondée, allait devenir la plus grande ville grecque de l'ensemble du bassin méditerranéen. Alexandre le Grand avait réussi indéniablement à marquer l'histoire de l'Antiquité.